Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai invité Bérénice. Donc, coucou Bérénice, je vais te laisser te présenter.
Salut Clémence, bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Bérénice, je suis kinésiologue et aromathérapeute et je suis aussi l'auteur du livre « Et si les fleurs de Bac m'étaient comptées ?»
Oui, voilà. Vous avez dû le voir passer justement sur mes réseaux parce que de temps en temps, j'aime bien utiliser. J'ai été la première, première fan, non je rigole, c'est pas vrai, mais en gros, j'ai beaucoup accroché à cet ouvrage. Si tu veux, tu peux nous en parler un petit peu. Ça serait super.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai écrit un livre sur les élixirs floraux de Bach. Comment, pourquoi ? En fait, tout à fait par hasard. C'était un rêve d'enfant d'écrire un livre. J'avais vraiment cette envie-là. Et je ne savais pas comment faire, parce que commencer une histoire et lui donner un déroulé, etc., ça me paraissait un petit peu complexe. Et un jour, à la suite d'une conférence sur les fleurs de Bach, une amie m'a demandé en fait de faire une petite synthèse, parce que j'ai tendance à parler beaucoup et donc apparemment on a tendance à ne pas pouvoir prendre de notes. donc voilà, et donc avec cette idée là en tête, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je suis pas très fan des listes classiques des élixirs floraux, ni même fan des listes tout court. Et je ne suis pas quelqu'un de très discipliné.
Il n'y a pas de souci.
Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. À la suite de ça, on avait décidé de faire une expérience qui parlait de Ho'oponopono. J'aime beaucoup expérimenter les choses qu'on nous explique et qui sont très cérébrales. Et j'aime bien les mettre en application pour voir un petit peu le résultat. Donc, avec un groupe de personnes qui était absolument génial, on a choisi de faire cette expérience. En se mettant vraiment dans les conditions de l'origine de Ho'oponopono, à savoir, on met vraiment la personne au centre du cercle et on va travailler avec cette belle pratique et on va voir ce que ça nous fait sentir et on va partager nos expériences. Je trouvais ça génial. Et quand ça a été mon tour, en fait, de me mettre au centre de ce cercle, cette phrase qui tournait toujours à l'intérieur de moi m'est venue, qui disait vous ne m'aimez que parce que vous ne me connaissez pas. Si vous êtes capable de m'aimer, c'est parce que je vous montre de moi ce que je veux que vous voyez de moi. Et donc, forte de cette expérience-là et avec cette phrase qui tournait à l'intérieur de ma tête, je me suis couchée un soir avec une bonne migraine.
Yes.
Et je me suis dit, bon, bah, quitte à ne pas dormir, autant faire cette espèce de rétrospective sur les fleurs de Bach que je n'ai pas du tout envie de faire. Et on va voir ce que ça donne. Et évidemment, cette petite phrase qui tournait, elle est très, très bien avec l'élixir qui s'appelle Agrimonie. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas commencer avec cette petite phrase. Et en fait, s'en est suivi une petite histoire. Et je me suis dit que petit à petit, ce serait plutôt une bonne chose, en fait, d'en faire des histoires de ces élixirs. Après, il faut savoir que moi, dans ma façon de percevoir les fleurs, naturellement, elles avaient déjà cette histoire. La façon dont je parlais des fleurs était déjà très imagée. Je suis très... je vais avoir le flacon de la fleur dans les mains et vous raconter que Gors, il est plutôt renfrogné, plutôt boudeur et qu'il est comme ça parce qu'en fait, les choses l'ont dépassé, elles l'ont submergé, c'était beaucoup trop fort pour lui et je vais lui prêter le costume d'un motard qui se balade sur la route 66 parce qu'en fait il aime être tout seul parce que la compagnie c'est compliqué pour lui parce qu'il aime pas partager, etc. Donc au final il y avait quelque chose d'assez évident qui m'a saisi au moment de commencer à écrire et c'est qu'à la fin de je pense la 3 ou 4e fleur que j'ai commencé à me dire mais en fait ça pourrait faire un livre et ce serait super parce que je trouve que Le fait de se lier profondément à l'histoire d'un remède, en fait, nous permet vraiment de l'imager, de discuter, de converser avec lui. Et du coup, ça rend la similitude avec notre histoire plus simple. Ça nous permet de vraiment posséder ce remède-là et du coup, de pouvoir le laisser rentrer plus librement dans nos vies et dans ces endroits qui nous font souffrir. Mmh. Voilà. Et du coup, j'ai continué comme ça, allègrement. Et petit à petit, c'est devenu un livre, voilà.
Ouais, c'est vraiment top. Et En plus, ton livre est accompagné de cartes. Et donc, ces cartes, justement, on peut les utiliser pour le développement personnel, pour avoir son petit message, voilà, c'est ça, ça en fait. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet, quoi.
Oui, c'était important pour moi de rajouter un outil qui soit préhensible. J'avais vraiment envie de travailler. D'ailleurs, tu les as, les cartes, tu les as touchées. Elles ont un pelliculage particulier, tout doux. Ça s'appelle du soft touch. J'aime beaucoup, moi, ce nom. J'ai trouvé ça hyper mignon. Et j'avais envie vraiment de travailler avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que j'avais besoin de cet outil de préhension. C'est pas quelque chose... qu'on attendait forcément sur les fleurs de Bac, même s'il en existe déjà, hein, d'accord, en thérapeutique, on a déjà des oracles ou des, simplement des jeux de guidance qui vont avec les fleurs de Bac. Mais j'avais vraiment envie que les personnes, pour pouvoir travailler sur eux, puissent avoir accès à la fleur qui s'incarne dans leur journée, dans leur soirée, dans leur semaine, dans telle problématique, en fait, puisse se servir de quelque chose de joyeux. Et c'est pour ça qu'il existe, ce jeu de cartes. Et donc, il est assez particulier puisqu'il n'a pas d'illustration, parce que c'était important pour moi que l'énergie qui ressorte de la carte soit seulement l'énergie de l'élixir et la guidance qu'il portait. Comme ça, on peut s'en servir, effectivement, comme tu disais, comme un message. On peut s'en servir pour déterminer la fleur qui est à lire aujourd'hui. Parce que j'ai quand même cette tendance particulière d'avoir écrit un livre, mais qui n'est pas fait pour vous conseiller de prendre la fleur obligatoirement. Moi, j'aime garder cet axe de... En fait, la prise de conscience, le déclic en soi est bien souvent suffisant. Le fait de tourner son œil intérieur sur ce qui a besoin d'être mis en lumière est bien souvent suffisant, ou en tout cas un pas suffisant, pour pouvoir entamer le travail qu'on a à faire. Et du coup, l'idée effectivement de ce livre, c'est vraiment de prendre conscience qu'on va pas forcément l'utiliser pour choisir les fleurs qu'on prend. On peut aussi, hein, évidemment, c'est pas le problème, mais ça n'est pas sine qua non, en fait, à son utilisation.
Oui, totalement. Vraiment, moi, j'aime beaucoup cet outil. Et dès que j'ai envie d'avoir un petit temps pour moi, pour, voilà, c'est ce que je vais utiliser. Je le montre pas à chaque fois sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent. Vraiment, c'était un coup de cœur c'est par les réseaux que je t'ai connue. Et ça a été vraiment un coup de cœur de genre me dire mais c'est génial en fait ce qu'elle fait, j'adore et vraiment puis en plus ça va bien avec un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, mais tu sais genre justement ça permet de se rencontrer, de comprendre des fois un petit peu la petite chose qui était le petit grain de sable dans ta journée, c'est ça. T'es en mode ah mais c'était ça, donc je trouve ça vraiment top. Pour rebondir justement sur les fleurs de Bac, comment t'es tombée en fait dans les fleurs de Bac et l'aromathérapie? Genre, est-ce que ça a été quelque chose qui t'a attirée? Est-ce que c'est justement une façon de toi, t'avais besoin d'avoir un outil pour toi? Bref, voilà, un petit peu raconte-moi ton histoire par rapport à l'aromathérapie et les fleurs de Bac, je vais y arriver.
Alors, par rapport aux fleurs de Bac et à l'aromathérapie, en fait, c'était assez simple. Elles étaient comprises dans ma formation de kinésiologue, en fait. Okay. Du moins, les fleurs de Bac étaient comprises. Et elles m'ont tout de suite attirée parce que dès l'instant qu'on a commencé à parler de ces fameuses listes, on prend Crab Apple parce qu'on fait des cauchemars, qu'il y a une histoire de besoin de contrôle, etc., etc. Moi, très vite, j'avais cette sensation, je voyais se dessiner des choses, en fait. Et je suis quelqu'un de très imaginatif, donc forcément, ça m'a plu très vite, je me suis sentie happée très vite. Et les élixirs floraux, en règle générale, m'ont beaucoup plu. Les fleurs de Bac en particulier, parce qu'elles ont vraiment cette structure de personnages, en fait, d'ambiance, d'endroit, etc. Il y a d'autres élixirs avec lesquels je travaille que j'affectionne tout particulièrement, mais eux ne vont pas forcément avoir cette histoire-là, en fait. C'est un peu différent, elles ont une autre teneur. Je les aime tout autant, mais c'est vrai que j'ai un lien différent avec elles, en fait. L'aromathérapie, c'est encore une autre histoire, parce que pour le coup, c'était proposé dans ma formation, mais moi, j'aimais pas les huiles essentielles.
Ok.
J'aimais pas.
C'est trop rigolo.
C'est rigolo quand on sait à quel point je les aime aujourd'hui et à quel point elles me parlent. Le truc, c'est que j'ai choisi de faire ce module parce qu'à l'époque, on te parlait d'un certain nombre d'heures, en fait, pour pouvoir être pris en charge par les mutuelles quand ton métier serait reconnu par les mutuelles, etc. Et kinésiologue, c'est toujours encore compliqué. d'être reconnu par ça. Mais à l'époque, on te vendait ce cours-là pour pouvoir continuer à parfaire tes heures. Et du coup, bon, je me suis dit, pourquoi pas, au pire, je fais mes heures et je ne m'en servirai pas, mais au moins, j'aurai mon quota d'heures. Et j'aimais pas les huiles essentielles parce que c'était méconnu, que je trouvais qu'on nous mettait dans les mains quelque chose qui avait quand même beaucoup de contre-indications. Je suis même trop rigoureuse avec les contre-indications. Et du coup, je partais du principe que c'était vite dangereux, en fait, de mettre ça dans les mains de jeunes thérapeutes et de tout un chacun, puisque au jour d'aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quelle pharmacie, acheter tes mélanges tout faits ou des unitaires qui ne sont pas en plus très bien conseillés. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une prof qui était absolument prodigieuse, qui voyait les huiles comme moi, je voyais les fleurs. Et donc forcément, très vite, ça a matché. Et du coup, très vite... Alors, ce qui est particulier, c'est qu'elle nous faisait passer les huiles pour qu'on les sente, en fait... pour pouvoir comprendre, en fait, de ce qui se dégageait des huiles essentielles. Et moi, je trouvais que toutes les huiles sentaient mauvais. En fait, elles sentaient trop fort. Elles avaient une odeur dérangeante. Et tu sens les composés biochimiques. C'était vraiment très particulier. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'était une vraie découverte. C'était hyper cocasse comme moment. Et est arrivé, il y en a deux dont je me rappelle vraiment, le Ravensara aromatica, qui est une huile dont je pourrais parler pendant des heures tellement son histoire est rigolote, et le Santal. Et ces deux huiles-là avaient quelque chose de particulier qui ont retenu mon attention et où là je me suis dit oui, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Il y a vraiment une histoire à entendre derrière tout ça et pourquoi pas. Et cette prof est partie sur ces histoires, en fait. Elle nous a parlé d'abord de toutes les propriétés, contre-indications, voie d'absorption, etc. Le cours classique que tu peux voir, j'imagine, dans beaucoup de cours d'aroma et très complet et très... j'ai pas le mot là tout de suite qui me vient, mais bon, très strict en tout cas. Et un jour, dans le courant de sa formation, elle nous ouvre, je crois qu'elle nous parlait de la carotte à ce moment-là, de la carotte sauvage qui sent très particulièrement mauvais. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir déjà conseillé la carotte à quelqu'un qui m'a dit oh, « mais j'adore son odeur, c'est absolument impossible, ça sent la terre, ça sent la... » c'est une odeur vraiment très particulière. C'est une belle huile, mais elle a une odeur très, très particulière. Et par contre, elle a des applications absolument géniales. Et elle nous parlait de cette carotte qui était une personne très... définie, qui avait des cheveux roux et qui était un vrai bout en train, qui possédait la pièce quand elle entrait, etc. Et là, d'un coup, tu vois, il y a quelque chose en moi qui s'est ouvert et je me suis dit, non, mais là, faut que je plonge là-dedans. C'est évident qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Et en fait, tout son cours, elle faisait ça. Tout son cours, elle personnifiait les huiles. Tout son cours, elle te reliait l'histoire de la plante à ça. Tu vois, pour parler de la carotte sauvage, ça met 2 ans. À monter en graines pour s'offrir au monde, en fait. Donc effectivement, le jour où elle s'offre au monde, la carotte, elle est apprêtée, elle est existante, elle est bruyante, mais dans la beauté de la chose, elle est truculente. C'est vraiment des personnages que tu as envie de rencontrer. Et voilà comment moi, j'ai rencontré pour de vrai, cette fois-là, l'aromathérapie. Tu vois, ça s'est fait en 2 temps, un peu contrainte et forcée et en même temps volontaire. Et j'en suis tombée amoureuse relativement rapidement derrière, en fait. Et c'est là que je les ai vraiment rencontrées. Et puis, ben, j'ai jamais arrêté de danser avec elles, en fait, ensuite, parce que c'est tout un monde. Et au fur et à mesure des partages avec les patients, les énergies se sont affûtées. Mes connaissances ont grandi aussi. Et je le dis toujours, un thérapeute... celui qui lui apprend le plus, c'est pas forcément son cours, c'est ce qu'il entend de l'histoire de la personne, en fait. Et l'aromathérapie en particulier, c'est un apprentissage incroyable de pouvoir voir les retours avec les patients. Donc moi, j'aime pratiquer une aromathérapie très énergétique, très émotionnelle, très complète. Et même quand j'ai à travailler en aromathérapie physiologique, donc c'est-à-dire vraiment en absorption par voie orale ou autre, même à cet endroit-là, je vais travailler sur le terrain de la personne. C'est-à-dire que là où tu donnerais... beaucoup de gens sont très allopathiques dans leur façon de pratiquer l'aromathérapie, tu sais. Et le truc, c'est que quand tu es allopathique, tu vas choisir tes huiles en fonction de tes besoins. Genre, il te faut un antiviral, tu mets le plus gros mastoc que tu as, etc., etc. Et tu vas équilibrer ce truc-là parce que forcément, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, je vais toujours aller chercher quelle est l'huile qui va se rapprocher au mieux du terrain de la personne ou au contraire, quelle est l'huile qui va la tirer un petit peu hors du terrain dans lequel elle s'est enlisée, etc. Et ça a un côté investigation que j'aime profondément. C'est une des choses que j'aime faire dans ma pratique de thérapeute tous les jours. Donc, forcément, c'est quelque chose que j'ai fait grandir avec moi et qui m'a fait grandir aussi.
Bien sûr.
Et voilà. Donc, voilà un petit peu comment j'ai rencontré les élixirs et l'aromathérapie.
Mais c'est super parce que bah déjà, au moins, ça montre, tu sais, qu'on n'est pas obligé d'aimer tout de suite quelque chose et de tomber dedans en
Ah,
mode
mais oui.
ouah, c'est la passion. Et en plus de ça, moi, avant de te rencontrer, puis même de travailler avec toi, les huiles essentielles, c'est quelque chose qui me faisait plutôt peur, parce que pareil, contre-indication, les gens, j'avais l'impression qu'ils prenaient ça n'importe comment, pareil, tu vois, genre sans avis, sans rien. Donc, tu m'as fait découvrir justement ce côté, je trouve poétique, déjà, je trouve ça très poétique en fait, tu sais, de mettre une histoire derrière ces plantes, derrière que ce soit les fleurs de Bac ou que ce soit les huiles essentielles. Je trouve que, tu sais, c'est pas tout le monde d'imaginer, de raconter une histoire derrière ça, tu vois. Genre, c'est pas toujours facile de comprendre, comme des fois t'aimes bien l'utiliser comme mot, c'est un peu barré, tu vois, de dire genre, ok, elle me parle de la carotte qui sort et les gamins, machin
C'est
et
ça.
tout. Donc, tu sais, et moi, je trouve ça extraordinaire parce que, bah, pour le coup, ça m'attire. En fait, au contraire, ça vient me chercher quand tu me racontes une histoire qui a quelque chose derrière, que c'est pas juste une huile que tu vas utiliser justement, bah, voilà, j'ai un rhume,
C'est
faut que
ça.
j'utilise absolument celle-là. Il y a une énergie derrière cette plante, il y a une énergie derrière toi, et toi, justement, tu prends en compte tout ça. Tu vois, toi, c'est fait vraiment une globalité de tout ça. C'est pas juste un problème, tu donnes une huile sans cesse. C'est ok, on va voir l'ensemble, on prend
Il
en
se passe
tout.
quoi?
Ouais,
Ouais, c'est
voilà, c'est
ça.
ça. Et c'est ce qui fait, je
Mais
trouve, la
d'autant que...
qualité de ton
Ouais.
travail. Tu vois, vraiment. Non, c'est vrai.
Merci. Mais d'autant que on gagne vraiment à réfléchir comme
Bien
ça, parce
sûr.
que t'as des résultats plus rapidement, en fait, et avec moins d'efforts du corps, en fait. Là où tu vas mettre un origan qui est vraiment un tremblement de terre pour l'ensemble des organes du corps, qui a une efficacité non contestée, hein, qu'on
Bien
s'entende
sûr.
bien, mais qu'il va falloir que tu équilibres par un citron, par un romarin, etc., qui eux-mêmes ont des énergies très contradictoires et qui ne vont pas forcément aller avec le côté ingénu et tout doux d'une personne. Qui a vraiment besoin de douceur, si tu travailles avec un joli bois de rose qui va venir travailler sur. Il faut savoir que dans une huile essentielle, tu as 300 molécules biophytochimiques en fait, différentes. Donc, dans à peu près l'ensemble des huiles essentielles, tu es en capacité d'avoir les mêmes ingrédients que dans ce fameux origan. Elles seront moins présentes, elles seront plus ténues, mais en fait l'intelligence du corps et la similitude avec l'énergie de l'huile et sa volonté de rentrer en résonance avec toi va tout à fait compenser la puissance de quelque chose. Et c'est la beauté de la chose en fait. C'est vraiment aller chercher la justesse et la finesse dans la subtilité de ce qu'elles offrent. Mais tout à l'heure, tu disais, c'est chouette, c'est poétique d'avoir une huile qui ne soit pas qu'une huile. Et moi, c'est ça que je trouve très dommage, c'est que les gens pensent encore, voient encore l'aromathérapie comme une huile, c'est une huile. Dans mon monde à moi, une huile essentielle, c'est comme avoir distillé l'âme d'une plante. Il faut quand même se rendre compte des proportions. Tu vois, la rose de Damas, beaucoup de gens disent, ah non, moi, j'en utilise pas, c'est cher. Oui, c'est cher parce qu'il faut 4 tonnes de pétales de rose de
Énorme.
Damas pour avoir 1 millilitre, pardon, d'huile essentielle. J'ai regardé la bergamote hier, il faut 500 kilos de peau de bergamote pour faire, je crois, 1 litre, je vais te dire des bêtises. Oui, 1 litre, je crois, d'huile essentielle de bergamote. À vérifier, vraiment là pour le coup, voilà. Mais on n'a pas ce respect-là de ce qui s'offre en fait. Nous, on a le produit fini, et je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher en fait un peu l'histoire des huiles. Mais tu sais, Ce côté, je tombe pas en amour. Moi, je suis très comme ça. Je suis assez sauvage. Et donc, du coup, je ne tombe pas facilement en amour avec les choses parce que je m'en méfie beaucoup. Et alors, d'abord, pour ce qui est de l'aromathérapie, à partir du moment où vous êtes avec un professionnel qui connaît bien ces huiles et qui, lorsqu'il ne les connaît pas, saura aller chercher ses composants et donc, connaissant les contre-indications des composants, connaîtra les contre-indications de l'huile en question, vous êtes en totale sécurité, il n'y a aucun problème en fait. Simplement, effectivement, il faut tomber sur quelqu'un qui soit compétent dans son domaine, tout simplement. En dehors de ça, tu vois, moi par exemple, je n'aimais pas la sophrologie, par exemple, avant de rencontrer la sophrologie incarnée dans le travail de quelqu'un qui vraiment respire son travail. Je n'aimais pas la naturopathie avant de rencontrer la naturopathe qui avait vraiment cette profonde volonté, tu vois, de comprendre les choses, etc. Donc, je me suis rendu compte que au lieu d'être sauvage, en fait, j'aimais juste les pratiques quand elles étaient pures, en fait, et quand elles avait ce côté très naturel en fait dans les choses et les huiles essentielles, du coup c'est pas étonnant que ça ait été la même type de rencontre, tu vois, il y a que quand on a été vraiment dans l'essence même de l'essentiel, sans mauvais jeu de mots, que je suis vraiment tombée en amour de ça, quoi. Voilà.
Ouais, non mais c'est vraiment chouette ce que tu dis et en fin de compte c'est juste aussi ramener, je trouve, de l'humanité en fait aussi dans le soin, peu importe le thérapeute, du reste, je fais juste une petite parenthèse, mais ne pas hésiter à changer de thérapeute quand on voit que c'est un peu bancal. Moi, je sais qu'en France, il y a le titre RNCP pour la sophrologie. Je ne sais pas si c'est pareil pour la kinésio ou l'aromathérapie, etc. Mais pas hésiter à regarder quand même la formation de la personne. Si c'est du bouche à oreille, bah c'est cool aussi parce que ça peut être justement un gage un peu aussi, des fois de qualité, peut-être pas tout le temps, mais quand même. Et pas hésiter justement à voir s'il y a cette connexion avec le thérapeute et donc pas hésiter à...
C'est ce que j'allais dire, le feeling avec le thérapeute est profondément important selon moi aussi.
Il faut pas hésiter.
C'est vraiment quelque chose à prendre en compte.
Totalement, il ne faut pas hésiter à changer, je trouve que c'est important parce que, bah, que ce soit pour le thérapeute comme pour la personne qui vient consulter, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est d'avoir une personne qui vient et tu sens que ça va pas le faire. Puis c'est ok, tu vois. Souvent déjà les deux parties le sentent, donc souvent la personne elle va pas revenir d'elle-même. Mais si en tant que thérapeute, moi je sens que je suis pas la personne adéquate pour accompagner cette personne, je vais aller la rediriger en me disant bah écoute, là-dessus je préfère te rediriger parce que je considère que c'est pas assez, enfin c'est pas moi qui vais t'apporter le mieux en fait, je suis pas la bonne personne.
Mais moi je le fais aussi ça.
Et ça justement je trouve que c'est aussi un bon truc, tu sais, de qualité de thérapeute, parce que si tu prends n'importe qui juste pour avoir l'argent qui est à la fin, c'est pas fou, c'est pas pour rien moi que j'ai quitté les soins infirmiers, c'est totalement pour ça, c'est que je n'avais pas le temps d'écouter les gens, que justement tu leur donnes juste des médicaments par rapport à leurs problèmes physiques, point, tu vois, et ça me convient pas, et c'est pareil que toi, tu vois, genre j'aime voir les choses dans la globalité, et avoir de l'humanité là-dedans, juste se poser, écouter, juste la personne, pouvoir qu'elle puisse se déposer dans ton cabinet, que ce soit en consultation, même en vidéo, conférence ou autre, c'est genre juste leur laisser cet espace-là, c'est déjà tellement énorme, c'est déjà... Alors je sais plus, il me semble qu'il y avait bien un pourcentage, c'est genre 50% passe par justement le côté écoute et psychologique, etc., pour pouvoir guérir d'une maladie ou pouvoir améliorer sa condition, tu vois. Et c'est ce que je suppose tu fais aussi, toi, en consultation. Les personnes, peut-être au début, viennent justement pour que tu leur dises « Ah bah, prenez telle huile essentielle, machin et tout. » Puis en fin de compte, elles se rendent compte que derrière, il y a d'autres choses, quoi. C'est pas juste...
Ah oui, de toute façon, un conseil d'huile essentielle, il vient toujours à la fin d'une discussion chez moi, si tu veux. On va... En plus, bon, étant kinésiologue, je teste à la fin, tu vois. Mais c'est pas parce que tu vas travailler avec telle huile que c'est... tu vois, c'est quelque chose, c'est une discussion que j'aime bien avoir en ce moment, elle revient souvent. Tu peux incarner telle huile dans la façon dont tu vis les choses, tu vois, être plutôt dans de la lutte et avoir besoin d'un laurier, tu vois, ou des choses comme ça pour te redresser parce que vraiment tes limites ont été mises ont été prises à défaut, quoi. Et vraiment être dans cette espèce de rage et d'envie de te redresser, de reprendre ta stature, de te reverticaliser. Donc tu vas discuter avec cette personne qui t'amène cette problématique-là dans sa démonstration, on va dire. Mais quand je dis ça, il n'y a pas de côté péjoratif du tout, hein. C'est juste dans ce qu'elle affiche, en fait. Et en fait, en discutant, tu te rends compte que son besoin, il n'est pas du tout à cet endroit-là. Son besoin, il est dans un besoin de légèreté. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'exister. Et donc, tu vas pas partir sur un laurier dans ce que tu lui donnes. Bon, tu vas le vérifier encore une fois au test. Tu vas plutôt partir sur un bois de rose qui va lui donner une écoute, qui va lui donner de l'espace pour pouvoir pleurer, qui va lui donner suffisamment de recul pour pouvoir trouver de la joie, etc., etc. C'est hyper important, selon moi, de faire la distinction entre ce qui s'affiche de nous, parce que ça fait un certain temps que ça s'est verrouillé, et ce qui peut apporter une réponse, en fait, à ce qui s'affiche et ce qui est souffrant, parce que c'est bien souvent quelque chose de différent qui va s'en occuper, en fait. En aroma, on a plusieurs façons de travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler en unitaire et en externe. Il y a des cas effectivement où il faut passer par du physiologique, mais c'est vraiment rare que je m'en occupe parce que la plupart du temps, c'est pas ce qui amène les patients chez moi. Si on va, tu vois, sur des travails comme le corps est assiégé par un staff, oui, tu vas te débrouiller quand même pour que le corps puisse trouver sa solution, en plus de toute la médication qu'il y a de mise quand il y a un staphylocoque qui est impliqué, évidemment. Je trouve que travailler en externe, ça a un vrai intérêt. Les unitaires sont très belles. Et tu as un travail aussi qui peut se dessiner, moi, que j'aime beaucoup, qui est celui de la caractérologie. Travailler sur quel est l'axe du passé qui vient embrouiller mon présent. Quel est dans mon présent ce que j'ai besoin de renforcer. Et pour pouvoir pleinement être aux prises avec ma vie, pleinement être présente, pleinement être consciente. Et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ce que j'ai envie de poser dans mon futur? Et ça, tu peux le faire dans un mélange aromathérapeutique, en fait, en dosant, en fait, tes ingrédients et en l'utilisant comme un parfum pendant un certain temps. C'est plutôt un travail sur la longueur. Et j'adore travailler comme ça parce que tu découvres toujours quelque chose. Et quand tu vois éclore la personne dans la façon dont elle a fait les choses, puisque souvent tu ne vois pas la personne pendant tout le temps où elle travaille, tu la vois surtout à la fin sur ce travail précis. Et ça donne toujours quelque chose d'assez incroyable. T'es vraiment sur une métamorphose qui tient plus de l'éclosion que de la
Oui,
métamorphose
tout
en
à fait.
réalité, puisque la métamorphose n'est que dû à ce qui s'affichait et ce qui s'affiche différemment maintenant, quoi, tu
Ouais. Non,
vois.
c'est vraiment top. Est-ce que tu pourrais, parce que je sais pas si tout le monde connaît en fait la kinésiologie, est-ce que tu pourrais juste un peu expliquer ce que c'est?
La kinésiologie, c'est toujours le truc un peu compliqué à définir. Mais la kinésiologie s'appuie sur le fait qu'on va aller travailler via le dialogue du corps, en fait, avec le langage du corps. Et donc, l'outil de base de la kinésiologie, c'est le testing musculaire. Le testing musculaire va permettre au thérapeute de déterminer si quelque chose crée un stress chez une personne, ou au contraire, va renforcer un stress qui était, enfin, du moins, va renforcer la personne de sorte que ce stress soit moins prenant. Et donc, partant de ce dialogue-là, donc, il y a quelque chose d'assez simple à comprendre. Moi, j'aime beaucoup l'expliquer, tu sais, avec vous connaissiez les petits bonhommes d'Il était une fois la vie?
Mais ouais, c'est ok.
Tu sais, les
Oui,
petits
je
bonhommes
vois.
avec la tête en pointe, là, qui couraient pour amener le message nerveux. Bah, en gros, quand il y a un stress dans le corps, le petit message nerveux, au lieu d'aller dire au bras de se contracter, en fait, va se prendre les pieds dans le tapis et va arriver avec 40 millisecondes de retard. On appelle ça un retard de potentiel d'action. Et ce retard de potentiel d'action, c'est précisément ce sur quoi nous, les kinésiologues, on s'attarde. Parce que normalement, dans un cas classique, si tu demandes à une personne de verrouiller un muscle, donc sans imprimer de force, hein, la force n'a rien à voir dans l'histoire, simplement de tendre le bras et de maintenir en fait ce bras tendu sans qu'il bouge, le fait que tu poses une question ne devrait pas influer sur la façon dont ce bras est verrouillé. Si si la question que tu poses influe sur la façon dont le bras est verrouillé, on arrive du coup dans ce fameux retard de potentiel d'action. Et si le petit bonhomme du message nerveux s'est pris les pieds dans le tapis et est arrivé avec 40 millisecondes de retard, c'est qu'il y avait un stress et qu'il a vu quelque chose passer et qu'il s'est dit « Oh, c'est pas normal !» Et hop, on a une réponse qui est un peu différente. Et partant de là, on a tout un ensemble de protocoles, de listes de testing et de choses comme ça qui nous permettent de nous orienter et d'aider la personne à voir ce que le corps est en besoin de dire pour la journée, enfin du moins pour la journée, pour le moment qui s'offre à cette personne-là. Et c'est vraiment une pratique, moi, que j'aime beaucoup parce que la kinésiologie, ça a quelque chose de très réconfortant en tant que thérapeute parce que tu ne vas pas partir sur ce que toi, tu sens. Tu vas tester ce que le corps de ton patient te dit. Et peu importe ce qui s'affiche en face de toi, en fait, c'est vraiment celui qui fait foi, c'est le corps du patient. Et du coup, c'est confortable en tant que thérapeute parce que du coup, tu vas vraiment respecter le temps intérieur, le rythme intérieur de la personne, ne pas dépasser sa limite, etc. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et au-delà de ça, tu peux... Une fois que tu sais tester, une fois que tu as ce positionnement thérapeutique de savoir que lorsque tu choisis de tester quelque chose, c'est que tu choisis de donner la parole au corps, donc que tu n'as pas imprimé une volonté ou autre, tu peux rajouter un certain nombre de cordes à ton arc et du coup faire évoluer ta pratique en fonction de ce que ton corps et ce que ton cœur aime travailler en tant que thérapeute. Et du coup, je trouve ça très confortable. Voilà, je sais pas si c'est plus clair, mais voilà,
moi, la façon dont je vois les choses. En tout cas, pour moi, ça l'est. Après, si c'est pas le cas, bah, les gens, ils n'hésitent pas à venir nous envoyer un petit message pour nous poser les questions. Puis s'il y a des questions, bah, on fera un petit live ou quelque chose pour y répondre.
Au contraire.
Ça peut être chouette. Et ouais, non, c'est vraiment, je suis ravie de faire cet épisode avec toi parce que justement on découvre de nouvelles choses. Même moi, tu vois, la kinésio, je connaissais pas tant que ça, je t'avoue. Donc j'apprends des nouvelles choses, quoi, déjà. Donc c'est toujours gratifiant de pouvoir apprendre des choses dans son propre podcast. Et puis en plus, ouais, moi en tout cas, ça m'amène un peu, tu sais, de magie. Même si c'est pas de la magie, on est d'accord. Hein, on claque pas des doigts puis tout est. C'est ce qu'on parlait un peu à l'heure, hein, c'est clairement pas de la magie, mais ce que je veux dire plutôt, peut-être de la féerie, enfin je sais pas, t'as un petit peu de trucs derrière qui montrent que, comme tu disais, c'est pas qu'une huile, c'est pas qu'une fleur, c'est pas que ça, on fait pas de la surface, on prend de la globalité, et que derrière, bah il y a toute une histoire, en fait. Tu vois, c'est pas juste une chose.
C'est ça.
C'est vraiment tout... C'est pour ça que...
D'autant que tu dis... D'autant que tu dis c'est pas de la magie. Alors dans ma définition, moi j'adore mon métier, je le trouve magique si tu veux. Mais effectivement pas au sens où on l'entend ces derniers temps. Ces derniers temps, beaucoup de gens veulent de la magie et clairement effectivement c'est pas du tout de cette magie-là qu'on parle. Mais pour moi, le fait de reconnecter avec l'intelligence du corps, le fait de rentrer en communion avec l'énergie des huiles ou des élixirs et de prendre conscience de la beauté de ce que la nature a mis à disposition de l'homme pour qu'il puisse continuer à expérimenter, le fait de laisser la place à quelque chose qui d'ordinaire n'en a pas, pour moi ça tient d'une magie qui est belle, qui est simple et qui est très très galvaudée par les temps dans lesquels on vit en ce moment. Donc oui, si moi j'appellerais ça quand même de la magie, avec la petite astérisque, tu vois, on ne parle pas de la baguette magique et de la fausse magie qui jette de la poudre aux yeux, on parle simplement de cette magie qu'on a oubliée de nommer comme étant de la magie, en fait.
Ouais, totalement. Et justement, c'est un peu aussi une invitation à prendre le temps aussi de voir cette magie dont nous on parle, en tout cas, qui nous entoure en fin de compte, parce que la nature, elle nous entoure, elle est là, et puis elle est là depuis bien plus longtemps que nous, et elle bien plus longtemps que nous, après nous. Donc clairement, prendre le temps justement, et de respecter, d'avoir de la bienveillance envers notre environnement. Je trouve aussi que ça fait un beau message de fin, de conclusion, finalement, en fait. Je trouve que ça fait... ça conclut bien cet épisode-là, que vraiment, on parle de plantes et de comment toi, tu les manipules, si je peux dire ça comme ça. Enfin, tu les amènes et tu...
Moi, je dis souvent que je danse avec elle.
Voilà, ouais. Bah, comment tu danses avec elle. Et moi, je trouve que tu m'as bien emmenée dans ta danse aussi. J'ai dansé avec toi. Donc, vraiment, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Déjà d'avoir accepté. Avec plaisir. D'enregistrer cet épisode. Et en plus de ça, bah justement, n'hésitez pas à aller, je mettrai en lien. Et puis déjà, de venir, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux. Donc, le tien, c'est Essie les fleurs de Bach. Je crois que c'est tout.
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Et puis, moi, vous connaissez, là, c'est Clémence Poche Sophrologie. Parce qu'on va sûrement mettre un petit code promo pour vous faire plaisir.
Et oui.
là, actuellement, l'épisode sortira en décembre. Donc, si vous souhaitez apporter justement cette magie, cette danse dont on a parlé pendant tout cet épisode, sous le sapin, ça va être une très bonne idée cadeau. Et puis de toute façon, je vous montrerai un petit peu sur Instagram, mais n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça. Et puis en plus de ça, vous soutenez une personne qui travaille dur là-dessus et vraiment qui en vaut la peine, son ouvrage en vaut vraiment la peine. Et voilà, n'hésitez surtout pas à venir soutenir un peu les personnes comme ça, écoutez. Donc voilà, merci encore Pérénice pour... d'être venue.
Merci à toi, c'était un vrai beau moment.
Merci.
C'est un vrai beau moment de partage. J'aime beaucoup le format podcast que je ne connaissais pas et je suis contente de le découvrir comme ça. C'est tout câlin, tout doudou, c'est super agréable.
Avec plaisir.
Donc, merci.
Merci.